premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux révolutions russes à l'occasion du centenaire de la révolution de février 1917. Il y a 100 ans, à quelques jours près, une révolution touchait la Russie en guerre, révolution qu'on appellera plus tard révolution de février pour la distinguer de celle d'octobre qui portera au pouvoir Lénine et les bolcheviks. Quels étaient les ressorts des multiples révoltes bourgeoises, militaires, ouvrières, paysannes qui tournèrent en révolution? Qui en étaient les acteurs? Quel contexte jouait la guerre et les privations dans ce déclenchement? C'est ce que nous verrons avec Anaïs Quin qui a préparé toute cette semaine avec nous et avec nos deux invités. Nicolas Vert, il est directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Il est auteur, entre autres, d'un récent « Que sais-je » qui vient de paraître sur les révolutions russes aux presses universitaires de France. Et Alexandre Zouf, il est maître de conférence à l'Université de Strasbourg, auteur chez Perrin de « La Grande Guerre oubliée », mais également d'un très récent « Raspoutine ». Mais tout de suite, vous le savez, comme tous les lundis, nous avons un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide, un épisode de la Fabrique de la Guerre Froide préparé par Anaïs Quin et Françoise Camard, qui a quelque chose à voir d'ailleurs avec notre sujet.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napřed.
Уважаемые гости.
27-й съезд КПСС.
Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros
du combat de Tejan. Placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba. Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Il y a всё время.
Je vis ici avec l'idée permanente que je ne fais que passer provisoirement.
4 janvier 1975.
Je suis persuadé qu'un jour je retournerai en Union soviétique dans ma patrie, mais je ne peux pas dire quand, et personne ne peut le dire à ma place. C'est ce qu'a déclaré Alexandre Solzhenitsyn hier soir.
Alexandre Solzhenitsyn incarne la dissidence russe des années 70. Après avoir été, selon les aléas de la politique intérieure soviétique, tour à tour interdit puis autorisé pour se retrouver à nouveau sur les listes de censure et emprisonné, son livre « L'archipel du Goulag », qui dénonce la répression carcérale à la mode soviétique, parvient à être publié en Occident. Devenu gênant mais intouchable, Solzhenitsyn passe à l'Ouest, où il défie l'attente des opinions publiques. Emilia Robin.
Solzhenitsyn est une figure emblématique de l'intellectuel soviétique persécuté pour ses idées et pour ses prises de position. En tant que tel, il a un début de vie assez classique. Il est né en 1918, il fait des études de sciences. Pendant la guerre, il a donc 22 ans, 23 ans quand la guerre commence, il est artilleur. Il est décoré en 43 pour son courage. Et en février 45, il est arrêté. Parce que dans une correspondance avec un ami, il avait écrit que Staline n'aurait pas dû décapiter l'armée rouge dans les grandes purges des années 30, que Staline a fait un mauvais choix concernant ses relations avec Hitler. Et donc, ses propos subversifs sont perçus comme anti-staliniens, donc anti-système, donc contre-révolutionnaires. Il est donc arrêté et condamné. Il est condamné à 8 ans de goulag pour son activité anti-révolutionnaire, pour avoir écrit 2 lignes anti-Staline dans une correspondance privée. Il fait donc 8 ans de goulag, est libéré en 53, exilé à vie au Kazakhstan où il se trouvait, et en fin de compte réhabilité en 56 à la faveur de la déstalinisation accélérée par Khrouchtchev après le 20e congrès en 56. Il reste professeur de sciences, mais commence à écrire. Il avait déjà réfléchi à quelques écrits pendant sa captivité. Il écrit en particulier une journée d'Ivan Denisovitch qui raconte la journée d'un prisonnier classique, un zec, au goulag au début des années 50. Il fait lire ce texte au rédacteur en chef de la revue Novy Mir, Nouveau Monde, qui est une revue littéraire moins conventionnelle que d'autres revues, et ce texte paraît avec le soutien personnel de Khrouchtchev, à qui on a lu le texte et qui autorise cette publication qui lui semble nécessaire dans sa politique de déstalinisation. Et ce texte est un coup de théâtre. Jusqu'ici, l'on sait que le goulag existe. En tant que tel, il s'agit officiellement que de camps de travail et de réhabilitation des ennemis du régime. En pratique, chaque famille soviétique a au moins un membre qui a été déporté et qui a fait de 5 à 10 à 20 ans de goulag pour sabotage ou trahison ou activité contre-révolutionnaire. Mais enfin, la vérité est écrite. Et c'est un coup de tonnerre. Et Solzhenitsyn va recevoir des milliers de lettres de gens qui apportent leur propre témoignage sur cette réalité dont l'on parle enfin. Donc il y a ce texte un moment incroyable de libération de la parole, en fin de compte, et de reconnaissance des faiblesses du système et qui est cantonné à l'époque stalinienne, espère-t-on. C'est dans l'idée qu'il s'agit des excès du stalinisme que l'on laisse publier ce texte. Néanmoins, Khrouchtchev est remplacé par Brejnev en 64, et vous avez un tour de vis, un resserrement très net. Vous avez en 66 le procès de deux écrivains, Sinyatsky et Daniel, pour leurs activités. Et pour Solzhenitsyn, qui continue à écrire Le pavillon des cancéreux, par exemple, c'est un moment où il voit la nasse du KGB se resserrer, avec des proches qui sont inquiétés, avec des fouilles. Et donc il commence, sur la base de ses lettres reçues et sur la base de son propre témoignage, à écrire ce qui sera l'archipel du Goulag. Mais avec une tactique qui est typique des intellectuels persécutés de l'époque, consistant à écrire les textes, les cacher, les enterrer dans des jardins, les cacher à différents endroits, toujours séparément, à déplacer les textes, à les faire passer progressivement à l'ouest sous couvert d'amis de confiance. Et il reçoit le prix Nobel de littérature en 70 pour différents écrits. Il n'a pas le droit d'aller recevoir son prix. Et en décembre 73, à la suite du suicide d'une de ses collaboratrices, il décide de faire accélérer la publication de l'archipel du Goulag qui est intégralement passé en France. Donc ça paraît en France fin 73. Deux mois plus tard, à la vue du scandale, il est arrêté. D'abord inculpé de haute trahison, ce qui lui fait risquer la peine de mort, puis dans les 12 heures, expulsé vers l'Occident. Et à partir de là, Solzhenitsyn devient l'emblème d'une résistance intellectuelle, l'emblème d'une génération de dissidents exilés, persécutés, pour simplement avoir cherché à dire la vérité sur le système soviétique. Ivan Denisovitch plus l'archipel du Goulag, l'un étant un bref roman, l'autre étant une sorte de témoignage foisonnant. Dans les deux cas, ce sont deux documents de première main, étayés, appuyés sur des textes de loi, des témoignages, des chiffres, des cartes, qui ne permettent plus de nier la réalité du goulag, et donc la faillite du système soviétique, ce qui met dans une position très, très inconfortable, évidemment, toutes les élites occidentales favorables à l'URSS, ou du moins à une politique d'entente. Donc Solzhenitsyn devient à la fois un emblème de cette dissidence. Néanmoins, ses propres convictions personnelles, religieuses, politiques n'en font pas non plus le dissident idéal. Il est à la fois critiqué en Occident, mais également en URSS. C'est ce qui fait de Solzhenitsyn à la fois un emblème, mais une figure très, très complexe à comprendre.
Qu'est-ce qui dérange peut-être en Europe, dans la personnalité de Solzhenitsyn ?
Ce qui dérange chez Solzhenitsyn, c'est qu'il est à la fois critique envers son propre pays, mais aussi envers l'Occident. Les valeurs matérialistes, consuméristes de la société occidentale des années 60-70, le machinisme, l'industrie de consommation, la publicité, tout ceci renvoie à un univers qu'il ne cautionne pas non plus et qu'il n'approuve pas non plus. Il est plus dans une vision idéaliste, religieuse. Il a extérieurement, physiquement, l'allure d'un prophète inspiré russe, de Moujik des années du 19e siècle avec une grande barbe, et il n'est pas non plus un soutien de l'Occident.
Voilà donc pour ce nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide que vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour. Bonjour Anaïs Kien.
Bonjour.
Bonjour à vous Alexandre Zumpf.
Bonjour.
Et bonjour Nicolas Werth.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent et vous venez de publier dans la nouvelle collection, parce que c'est une nouvelle maquette de Que sais-je, les révolutions russes. Alors quand on entend Alexandre Solzhenitsyn, eh bien on se dit, tout compte fait, on n'est pas si éloigné de notre sujet, puisque toute le grand œuvre qu'il voulait mettre en œuvre, c'était justement raconter la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est le cycle de la roue rouge qui commence par août 14, jusqu'à l'avènement de cette révolution, évidemment, et il s'est arrêté en chemin, en fait.
Oui, et il valait peut-être mieux arrêter en chemin, parce que, bon, il avait quand même, je pense, c'est un grand écrivain, bon... L'historien, c'est un peu autre chose. Bon, enfin, son idée, évidemment, c'était quand même dans la grande tradition libérale, c'est-à-dire que, au fond, tout allait bien, la Russie allait dans la voie de la modernisation,
de la progrès,
de la démocratisation, et puis patatras, la guerre, août 14, tout. Voilà, donc l'accident de l'histoire, c'est la théorie libéral classique développé depuis très longtemps, enfin oui. Depuis Miloukov, voilà, depuis
les Mensheviks, en fait.
Depuis les Mensheviks, depuis 22.
C'est-à-dire que c'est la guerre qui a empêché finalement la Russie d'accéder à une modernité politique qu'elle aurait atteinte si cet événement mondial qui était la guerre n'était pas intervenu. Voilà. Donc on était bien parti finalement avant 14.
On était très bien parti, même si Bon, comme on le sait, beaucoup d'historiens l'ont montré, c'est une période passionnante, le début du XXe siècle, la décennie précédant la guerre. Ne serait-ce que ce régime qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, une sorte de greffe pseudo-constitutionnelle sur un régime autocratique, c'était bon original, mais je ne pense pas que c'était la voie de la fameuse l'expérience constitutionnelle que de l'école libérale.
Il y a eu donc pendant très longtemps, c'est ce que vous expliquez en ouverture de vos révolutions russes, Nicolas Vert, deux lectures de ces révolutions de février et d'octobre 1917, et on peut y ajouter évidemment celle de 1905 qui les a précédées, qui a ouvert justement cette possibilité, selon les libéraux, de l'expérience constitutionnelle. Donc il y a eu deux lectures, cette lecture libérale que vous venez de décrire, Milioukov et tous ceux qui l'ont succédé jusqu'à Solzhenitsyn, et puis une lecture évidemment purement marxiste-léniniste, pourrait-on dire, qui, évidemment, n'allait pas dans le même sens et qui racontait une autre histoire de ces révolutions russes. Et aujourd'hui, il y a une troisième lecture ou une pluralité de lectures qui viennent justement contrebattre ces deux lectures qui ont longtemps dominé le jeu.
Absolument. Mais enfin, bon, disons que ce troisième courant, il a quand même émergé il y a fort longtemps. Déjà, dans ses pionniers, c'était la fin des années 60 et début des années 70. C'est l'école, au fond, américaine de l'histoire sociale avec ses deux pionniers, Reginald Zelnick et Leopold Hamson, qui ont vraiment remis à l'honneur cette histoire sociale, cette histoire de la des révolutions plurielles vues d'en bas, je veux dire, déjà, si on pense au livre quand même magistral de Ferraud, qui date de 67.
Marc Ferraud.
Ferraud. Bon, il s'inscrit dans cette école. Donc, cette école n'est pas nouvelle. Il y a au fond trois traditions historiographiques, déjà.
Peut-être que pour comprendre aussi cette succession d'interprétations, il faut peut-être revenir, Nicolas Vert, sur ce qu'a été la première révolution, celle de 1905, qui donc tente cette expérience constitutionnelle, tente de transformer ce régime impérial en une monarchie constitutionnelle, ou en tout cas en un embryon de cette idée, et qui va être malmenée, puisque effectivement la théorie libérale dit que la Russie était bien partie sur la voie de la modernisation politique. Pour autant, lorsqu'on regarde, et notamment dans votre dernier ouvrage, dans ce Que sais-je, on voit bien que finalement tout est décousu, tout ce qui avait été cousu en 1905 d'un début de démocratisation avait été patiemment décousu par le tsar lui-même. Et lorsque la révolution éclate en 1917, on est bien loin des espoirs de 1904-1905.
Oui, tout à fait. Avec quand même cette notation importante qu'avait donné Martine Malia dans son très beau essai de 80 « Comprendre la révolution russe ». Au fond, c'est une idée importante qui n'était ni celle des libéraux, ni celle des marxistes.
C'est qu'au fond, ouvrez d'ailleurs votre ouvrage par cette citation.
C'est qu'au fond, l'expérience libérale a échoué, mais en même temps, les libéraux avaient déjà joué leur carte parce que au fond on n'y croyait plus. Ça c'est important. Et puis l'autre idée de Malia, c'est au fond il montre aussi dans cette période ce qu'il appelle l'échec de la solution prussienne, c'est-à-dire d'un conservatisme mais social, modernisateur et social, notamment vis-à-vis des ouvriers. À la façon de Bismarck, c'est-à-dire quand même s'occuper de la question ouvrière. Parce qu'il n'y a, dans cette situation en Russie, dans les 10 premières années du XXe siècle, pas de possibilité d'émergence d'un réformisme ouvrier, socialiste. Au fond, ce qui se passe en France, en Allemagne aussi, en Grande-Bretagne, et donc avec l'impossibilité déjà d'une véritable, ou en tout cas la grande difficulté d'une émergence d'un courant socialiste, réformiste, modéré. Ça va être tout le drame des Mensheviks.
Oui, donc on voit bien effectivement que cette révolution de 1905 ouvre des possibilités qui se referment assez régulièrement dans une sorte de respiration, parce qu'il y a des tentatives de réouverture, des tentatives de clôture tout au long des années 1905-1914.
Absolument, avec des tentatives de Stolypine, par exemple.
Qui est le Premier ministre pendant longtemps.
Qui est le Premier ministre entre 1906 et 1911. Des fermetures, bien sûr, aussi. Et au fond, une situation très instable. Et la guerre arrive sur cette situation déjà instable.
Alexandre Zoom, vous avez écrit sur cette guerre un livre qui reparaît en poche, donc qui s'appelle La Grande Guerre oubliée. Pourquoi est-elle oubliée ? D'abord parce que c'est un front que les Européens de l'Ouest et les historiographies de l'Ouest ont souvent négligé. On a parlé parfois du front méditerranéen du côté des Dardanelles, bien évidemment, contre l'Empire ottoman. Mais ce front, effectivement, qui est très important et qui va mobiliser jusqu'à 15 millions de personnes pendant cette Première Guerre mondiale, a été de temps en temps négligé par les historiographies occidentales, préférant effectivement évoquer et Verdun et les Dardanelles où ils avaient combattu, entre autres.
Oui, tout à fait. Il y a un double sens à ce terme oublié. Ce conflit est oublié en partie par la focalisation sur ce front qu'on dit ouest, que moi j'appelle le front de France, puisque le front ouest pour les Russes, c'est le front contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Et d'autre part, il est aussi oublié en Russie. Il est oublié jusqu'à en tout cas 2014, où il y a eu un effort mémoriel, un effort commémoratif.
Oublié, ça veut dire qu'on ne l'enseigne même pas ?
Non. Qu'il était, l'essentiel des ouvrages avant 2014 était consacré à des histoires de la Grande Guerre en général. Mais il n'y avait quasiment rien sur la Grande Guerre russe. Il y a eu un effort scientifique et un effort mémoriel, un discours de Vladimir Poutine le 1er août. Alors, le choix de cette date aussi est significatif du fait qu'on ne s'inscrit pas du tout dans un phénomène mémoriel européen et dans une historiographie relativement récente qui place l'accent sur la guerre vue d'en bas, sur la guerre des soldats entre souffrance, ennui, problème de discipline, mais qu'on est dans une vision d'une guerre héroïque, la première des grandes guerres russes en quelque sorte du XXe siècle, et qui a été perdue à cause de qui ? Et c'est là qu'on revient à la question bolchevique, qui a été perdue à cause des agents de l'étranger, à cause de Lénine, de son wagon plombé, à cause de l'argent allemand, à cause de Rasputin, on en parlera tout à l'heure, donc à cause de tout ce qui n'est pas la Russie en quelque sorte, et que effectivement, là encore, on s'inscrit dans cette théorie un petit peu libérale, mais néo-patriotique, d'une Russie qui allait magnifiquement bien, où il n'y avait aucun problème. Et on sait que c'est totalement faux. Nicolas Werth a parlé des ouvriers, mais n'oublions pas la question paysanne. La libération du servage en 1861 est un échec. La banque paysanne qui est censée financer le rachat de la liberté est en faillite dès 20 ans plus tard. Les échéances ne sont plus payées. Les grands domaines, la plupart, sont ruinés. Et puis donc,
et malgré les tentatives de Stolypine, le Premier ministre, de lancer
une classe moyenne qui a fonctionné, mais qui a en fait accru la guerre sociale qui a duré entre 1905 et 1907. Et ça a été les premières victimes. On parle des grands propriétaires en 1917. Mais en 1917, les paysans séparateurs ont été les premiers à être intégrés de force dans la commune. Et ils étaient fort nombreux.
Anaïs Quin.
Il y a un certain effroi, Nicolas Werth, lorsqu'on lit les témoignages sur cette année 1917, au moment de l'insurrection des campagnes au cours de l'été 1917. Mais dans votre ouvrage, vous décrivez bien aussi cette violence sociale sourde et absolument terrible qui existe effectivement depuis la fin du 19e siècle, enfin qui court surtout le 19e siècle, dans ces campagnes russes. C'est-à-dire qu'on est dans une structuration des pouvoirs et des prises de décision et une difficulté de vie pour les 80% de paysans de cet empire russe, qui est absolument terrible.
Oui, il y a au fond, bien sûr, il y a cette violence sociale
qui préexiste à la Révolution.
Oui, qui préexiste à la Révolution, absolument, de la misère paysanne. Il y a une violence sociale extrêmement forte dans le monde ouvrier. Enfin, donc, la dureté de l'exploitation. Je me souviens, un très beau, c'était un document qui, je pense, figure dans le premier volume de Marc Ferraud, affiché à l'usine, une sorte de tarif. Vous perdez un bras, ça vous vaut 10 roubles, vous perdez un pied amputé. Donc, enfin, une sorte d'extraordinaire violence, dureté. Et puis, évidemment, là-dessus, sur ces strates déjà de violence sociale, va s'accumuler la brutalisation guerrière, la brutalisation de la guerre, et avec parfois une convergence, comme à la fin de l'été 17, la convergence de la jacquerie paysanne et de cette désagrégation de l'armée.
Oui, alors effectivement, 5 millions de soldats qui montent au front en 1914, et puis ensuite progressivement jusqu'à 15 millions. Il y aura des centaines de milliers de morts, évidemment, sur ce front, en l'occurrence, Alexandre Zouf. Alors, si la guerre n'est pas le déclencheur comme de cette révolution russe, comme le disaient les libéraux, elle en est quoi? L'aggravateur? Je ne sais comment on pourrait dire.
Le catalyseur, quelque chose qui,
d'une certaine façon, la Grande Guerre aurait servi, disons, d'exacerbation de toutes les tendances qui ont été décrites par Nicolas Werth à l'instant même.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une vision nuancée. D'un côté, il y a évidemment une exacerbation, une aggravation des tensions sociales. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la mobilisation de la société, une mobilisation par en bas, une mobilisation locale. Il y a la constitution de groupes de pression, notamment celui des femmes de soldats. Alors, d'un côté, elles sont violentes, elles sont revendicatrices. De l'autre côté, il y a aussi des ferments de démocratie d'en bas. Vous avez toute une philanthropie, toutes les associations de réfugiés. Il y a à peu près 6 millions de réfugiés qui fuient les marges occidentales de l'Empire russe et qui viennent à l'intérieur, dont un certain nombre de juifs et de baltes qu'on voit pour la première fois dans les campagnes du sud jusqu'en Sibérie. Donc il y a aussi un mélange qui est enrichissant et un mélange aussi qui suscite des questionnements de l'état des choses. Donc c'est un peu le yin et le yang de la révolution, du positif qui se mêle au négatif et une fermentation sociale. Une fermentation qui, avec peut-être des décisions appropriées, avec l'abandon de cette oppression et de cette... je crois que c'est Trotsky qui avait cette image du couvercle posé sur la cocotte minute de la société, qui était de plus en plus serré, et on n'avait pas de soupape. Et finalement, le couvercle a fini par exploser par la conjonction de différentes forces, à la fois dans la capitale, mais aussi dans les cités de province et au fin fond des campagnes.
Anaïs Kien.
Oui, c'est un peu la question, Alexandre Zouf. On a un peu de mal à identifier finalement qui de l'œuf ou de la poule génère notamment ces mutineries de soldats russes au front. On est quelque part dans la situation devenue insupportable vient aussi de l'arrière, un arrière-front dont le régime est incapable de s'occuper. On meurt de faim en Russie à ce moment-là. Donc il y a à la fois les premières victoires militaires qui peut-être pondèrent dans un premier temps cette exaspération sociale, et puis les défaites qui dévoilent à ce moment-là l'incapacité d'administration de ce régime qui est grévé depuis très longtemps malgré tout par de nombreuses rumeurs, par de nombreuses légendes qu'on raconte, par en tout cas des faits plus ou moins vrais, qui mettent en doute finalement la légitimité, l'autorité de ce pouvoir impérial.
Oui, donc pour répondre à la première partie de votre question, les mutineries, elles sont en fait pas du tout uniques. Il peut y avoir des mutineries pour des questions d'approvisionnement assez classiques. Il faut dire que l'armée russe est une armée particulièrement violente, où la discipline est une discipline où on bat tout simplement les soldats, où les soldats ont une haine de classe envers leurs officiers, même si il faut pondérer cela parce que les officiers de 1917 ne sont pas ceux de 1914-1915. Il y en a beaucoup qui sont morts au front. Hein, donc on l'a dit, à peu près 2 à 3 millions de victimes, 500 000 disparus, etc. Donc il y a ces mutineries-là. Les mutineries qui ont joué un rôle dans la révolution de février, ce sont quand même celles des garnisons de l'arrière. On a un mélange assez hétérogène de soldats qu'on ne veut pas envoyer au front parce qu'ils sont dangereux politiquement.
C'est-à-dire que ce sont des soldats qui ne combattent pas.
Et oui, c'est par essence. Et vous avez 2 millions et demi de soldats sur ces 15 millions qui sont dans les garnisons. Et vous avez des petites villes de province où il y a plus de soldats dans les garnisons que d'habitants dans les villes. Puisque une grande partie de ces habitants a été elle-même mobilisée du côté masculin. Donc vous voyez, vous avez une situation sociale extrêmement ambiguë. Et vous avez, et ça c'est, Marc Ferraud le disait très bien en 67 déjà, vous avez une omniprésence de l'uniforme qui est inédite en Russie.
Les capotes grises.
Les capotes grises qui sont partout et qui, au début, n'ont aucun rôle dans la mobilisation des ouvriers au tout début de février. Et puis, s'insurgent quand on leur demande de réprimer le peuple une fois de trop, le 27. Et c'est là qu'effectivement, ils font basculer la révolution.
Et on peut dire, Nicolas Werth, qu'il y a aussi de nombreuses fractures qui sont toutes différentes dans la société. C'est ce que vous racontez dans vos révolutions russes dans le Que sais-je. Une fracture ville-campagne, une fracture entre basse classe, alors je ne sais pas si je prononce bien les
Nise,
et Verkus. comment on dit
Virki,
donc les élites, les producteurs et les consommateurs, puisqu'effectivement, il y a, comme l'a dit très bien Anaïs tout à l'heure, des crises alimentaires, des crises frumentaires, les combattants et les planqués, ceux qui sont à l'arrière et ceux qui sont à l'avant, et ça complique effectivement la gestion même d'un pays comme celui-ci.
Absolument. Bon, alors il y a des fractures que l'on trouve, enfin de combattants planqués en France,
en France
évidemment.
Bien sûr.
Et puis il y a, même je dirais, vous savez, la crise des échanges ville-campagne, elle est plus forte en Russie qu'en France, mais en Allemagne, il y a à la fois les problèmes, disons, que connaissent tous les pays
en guerre,
une guerre longue, on n'a pas prévu tout ça, et puis les problèmes et les fractures spécifiques en Russie, et notamment, bien sûr, celles entre les basses classes et les hautes classes. Un auteur qui a écrit quand même un livre important, même, Orlando Fages, sur la révolution russe, un énorme pavé. Il fait d'ailleurs du ressentiment entre les basses classes et les hautes classes, au fond, un des moteurs importants. Alors, c'est une autre manière aujourd'hui de parler des luttes de classe, mais c'est un peu différent. Enfin, bon, la question du ressentiment.
Mais qu'en est-il justement peut-être de ces classes intermédiaires qui vont participer largement aussi à l'éveil politique de 1917, alors que finalement, on n'y croyait plus à ce moment-là, Nicolas Werth?
Oui, alors, ces classes intermédiaires, bon, d'abord, elles se sont mobilisées, Alexandre Zou l'a déjà dit, enfin, se sont mobilisées énormément, dans toutes ces associations d'aide aux prisonniers de guerre, aux réfugiés, etc. Ils ont pris, au fond, prétexte de la guerre pour essayer de pousser ce qu'ils n'avaient pas obtenu en 1905, la période d'avant. Donc il y a une sorte d'automobilisation, pas seulement des élites, mais au fond des classes moyennes cultivées, des villes, qui ne représentent pas un monde énorme, enfin quand même, plusieurs millions de personnes.
En tout cas, ce sont eux qui vont énormément la raconter, cette révolution.
Oui, ils vont évidemment beaucoup la raconter. Et puis, ce sont ces gens qui vont aussi être les adhérents prioritaires, je dirais, d'un spectre assez large de ces partis qui vont des libéraux jusqu'aux mencheviks, que les historiographies successives ont un petit peu eu tendance à oublier et à ne pas mettre en avant. Il faut jamais oublier l'importance des SR, des socialistes révolutionnaires, des mencheviks, des autres tendances aussi d'une social-démocratie russe très diverse.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Écoutez le premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux révolutions russes avec Anaïs Quien, avec Nicolas Werth et avec vous, Alexandre Zoum. Enfin, alors, il faut dire que si la guerre ne démarre pas trop mal pour l'armée russe, elle va tourner à la catastrophe. Des pertes considérables, non seulement de personnes qui meurent au combat ou qui sont blessées ou qui sont faits prisonniers, mais des pertes aussi territoriales qui vont amputer la Russie et l'Empire russe de beaucoup de territoires et l'obliger d'une certaine façon à faire reculer le front. Et ça, c'est important aussi dans la démoralisation générale du pays.
Oui, on peut dire, si on lit bien les témoignages de l'époque, et ils sont nombreux, que ce soit parmi l'aristocratie, cette classe moyenne dont on vient de parler, qu'à partir de ce qu'on appelle la grande retraite qui a lieu au printemps et à l'été 1915, et malgré le sursaut patriotique dû au fait que Nicolas II prend la décision de se porter à la tête
chef des armées,
voilà, personnellement.
Grave erreur, d'après tous les témoins.
Et dès l'époque, on le supposait, effectivement, c'était un pari risqué, et surtout quand on connaissait sa personnalité, et qui n'était pas un chef de guerre et pas un grand chef politique.
Mais qui devenait responsable de l'échec.
Il devient responsable de l'échec, mais vous savez, vu le... Enfin, quand on regarde d'un peu loin cette guerre, en dehors de deux victoires, une dans le Caucase, et puis cette fameuse prise de la forteresse de Przemysl en Pologne... qui n'a tenu que 3 mois, il n'y a quasiment aucune victoire significative. Les Russes cédaient largement, l'armée russe, à l'armée allemande, ça c'est un fait. Ils étaient par contre à peu près du même niveau et même légèrement supérieurs techniquement et stratégiquement aux Austro-Hongrois et aux Ottomans. Mais ils avaient les Allemands en face. Et ça, c'est sûr que c'était pour eux très compliqué à tenir. Donc après, en septembre 1915, il n'y a plus grand monde qui croit en une victoire possible, en une victoire en tout cas sans l'aide accrue des Alliés, qui jouent un rôle, on l'a pas trop dit jusqu'à présent, qui jouent un rôle énorme depuis le départ, un rôle technique, un rôle financier, un rôle matériel.
Anaïs.
Ce qui est quand même très étonnant, Nicolas Werth, lorsqu'on vous lit tous, on a la sensation d'un pouvoir, d'une famille impériale et d'un tsar qui perd totalement les pédales dans ces années-là, qui commence à faire n'importe quoi selon l'aveu de tous les témoins, d'ailleurs, qu'ils soient légalistes ou non, révolutionnaires ou non. Ce tsar qui prend le risque de s'exposer à une mise en responsabilité relativement inédite pour lui et qui l'expose gravement à un moment de tension très très importante, qu'avez-vous
oui,
en dire ?
Enfin, c'est sûr que bon, c'était un personnage qui n'était bon, évidemment pas à la hauteur de la situation. Bon, si vous voulez, et les historiens libéraux, enfin, tout le monde l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu.
Même lui.
Bon, mais en même temps, on faisait le seul, enfin, le principal responsable. Voilà. En tout cas, on voit quand même cette impasse politique, c'est-à-dire qu'au fond, le tsar veut toujours prendre prétexte de la guerre pour revenir sur les concessions politiques qu'il a dû faire avec le manifeste d'octobre en 1905.
Là, il y a un problème de culture politique du gouvernant.
Absolument, il y a un problème de culture politique, c'est-à-dire qu'il est l'autocrate de toutes les Russies. Il y a eu ces cérémonies incroyables du jubilé des 300 ans en 1913, où il s'est persuadé qu'au fond, il reste, et son peuple l'adore, et il reste l'autocrate de toutes les Russie.
Et puis, évidemment, naissent les rumeurs dont parlait tout à l'heure Anaïs et Alexandre Zouf, et en particulier les rumeurs sur des trahisons multiples. Évidemment, quand on est en pleine défaite, on cherche des responsables. Alors, on va chercher des responsables un peu partout. On peut les chercher dans des boucs émissaires dans la société, mais si on se tourne vers les élites de cette société, on va aller chercher cela dans la famille impériale, dans les ministres, dans ceux qui seraient peut-être déjà vendus, puisque Alexandra l'impératrice est de famille germanique. Donc déjà vendu à l'ennemi.
Chez
les mauvais conseillers. Toujours. Et évidemment, vous venez de publier un Rasputin, donc qui fait partie de ces mauvais conseillers, qui est même le principal mauvais conseiller, suppose-t-on, de l'impératrice et de la cour impériale.
Oui, alors il y a effectivement toute cette, il y a des très beaux ouvrages qui ont été faits sur la question du complot allemand, bon, qui existe dans toutes les nations belligérantes du côté de l'entente, mais qui a pris plus facilement en Russie puisqu'il y avait une théorie de l'invasion économique. Ça, on l'oublie souvent, de l'invasion économique, oui. Du fait que l'économie était tenue par les Allemands et, entre guillemets, et entre parenthèses, par les Juifs, hein, qui avaient des noms à consonance germanique. Et donc, il y a toute une opération de spoliation des entreprises, des terres de ces Allemands qui, certains, sont là depuis Catherine la Grande. Donc, vous voyez qu'ils sont complètement russes, en fait. Donc, une politique anti-allemande qui déchaîne les passions et qui échappe. Donc là encore, il y a une mauvaise maîtrise de l'humeur du peuple, de l'humeur de la société. Et puis il y a le fait qu'on court un risque, puisque comme l'a dit, je ne me souviens plus quel député de la Douma, en faisant une métaphore avec un verre de vin, Il a mélangé plusieurs fois d'eau et a dit, voilà, aujourd'hui, la couleur du sang russe de Nicolas II, puisqu'il a tant d'ancêtres allemands dans sa famille. Effectivement, dans les couronnes, dans les familles impériales et royales d'Europe, on se mélange tous entre vous. Et donc, l'impératrice, c'est la Marie-Antoinette russe, c'est l'allemande, c'est celle qui écrit à son frère pour essayer de négocier en secret une paix honteuse.
On sait combien les imaginaires historiques comptent dans des moments de crise comme ceux-ci, et on sait combien, à d'autres moments, les bolcheviks voudront raconter par exemple cette révolution russe, ces révolutions russes, Nicolas Werth, comme étant une révolution française qui aurait réussi sur le territoire russe. Et cette comparaison entre Marie-Antoinette et l'impératrice Alexandra, entre Nicolas II et Louis XVI, ça fonctionnait dans la tête des gens cultivés de la Russie de 1916-1917 en l'occurrence ?
Oui, ça fonctionnait, mais pas seulement, enfin, peut-être pas principalement dans la tête des gens cultivés, parce que justement, cette idée d'une impératrice qui trahit, je pense que la référence à Marie-Antoinette, elle n'était pas accessible à tout le monde. Mais évidemment, il y avait, en plus, toute cette extraordinaire, affaire, donc on lui prêtait une relation sexuelle avec Rasputin. Et là, il y a de très belles petites vignettes, des petites études. Bon, a fait un des grands historiens russes d'aujourd'hui, Boris Kolonitsky, sur justement tout autour de ces racontars, sur
ces rumeurs,
voilà, sur la liaison prétendue entre Rasputin et Alexandra.
Anaïska.
Oui, Alexandre Zumpf, cette biographie que vous signez chez Perrin de Rasputin, c'est finalement, elle est annoncée comme une biographie, mais au-delà de ça, c'est un véritable essai d'anthropologie, finalement, d'histoire russe. Et vous revenez sur cette notion de rumeur en nous expliquant à quel point, finalement, ces rumeurs qui sont dénoncées par tout le monde pour expliquer aussi le climat d'anxiété de ce début d'année 17, la question de la rumeur dans l'histoire russe, et pas seulement en 1917, c'est un fait auquel on est habitué, finalement.
Oui, on peut dire, sans essentialiser nos camarades russes, qu'ils sont assez friands d'histoires de complot et que ça va jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui en est de Rasputin, les rumeurs du vivant de Rasputin, le concernant et concernant l'impératrice, son influence sur le tsar, servaient de manière relativement directe, quoique indirecte, à contourner la censure pour attaquer la monarchie. Et donc tout le monde s'en servait, en particulier les libéraux et les socialistes dont on a parlé. Ensuite, après sa mort et après surtout l'abdication, il y a eu une période très courte, mars-avril, de véritable, moi ce que j'appelle une glasnost, une première glasnost, une première période de transparence, où on a pu dire tout ce qu'on voulait sur le tsar, l'attaquer, l'humilier par des images,
donc,
par des
pamphlets. Entre la fin 1916 et le printemps 1917.
Non, vraiment, quand même pas. Il a fallu qu'il abdique quand même, donc à partir du 2 mars,
et
même du 3 mars, jusqu'à mi-avril, vous avez une période où j'ai recensé à peu près une soixantaine de pamphlets sur Rasputin, qui se répètent les uns les autres, qui mélanger sa fabulation, mais qui révèle en fait toute cette croyance et cette libération de l'opinion politique dont vont profiter les partis politiques aussi et se structurer, même si on va laisser très rapidement de côté l'histoire de Rasputin.
Alors il faut rappeler peut-être brièvement, il nous reste une petite dizaine de minutes, un peu plus, il faut rappeler brièvement la chronologie pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas en tête. Donc la fin de 1916 est très intéressante et très importante pour pouvoir expliquer ce qui va se passer au tout début de 1917. Il y a en particulier la convocation de la Douma, donc c'est en novembre, c'est ça, 1916.
Oui, elle est reconvoquée enfin après un grand moment. Et puis il y a évidemment la formation d'un bloc progressiste, donc au fond des libéraux qui vont maintenant plus loin, mais qui en même temps ont tellement peur de la rue que ils parlent beaucoup, mais en même temps ils ont peur de la rue. Donc si vous voulez, voilà, c'est assez.
Donc ils font donc des tentatives qui sont encore, pourrait-on dire, presque parlementaire.
Voilà.
Et ça n'est que aux alentours. Alors, la chronologie est toujours difficile. difficile avec le calendrier qui n'est pas le même que le nôtre.
Oui.
Donc on est donc fin février, 19 février, c'est la date dans notre calendrier à nous, ou la date dans le calendrier julien, en l'occurrence Nicolas Vert, quand les autorités de Petrograd annoncent la mise en place des cartes de rationnement du pain, et puis ensuite le 23 février, la journée des femmes, des milliers d'ouvrières du textile qui se révoltent, etc. etc.
Donc chez nous, c'est 13 jours avant.
Non, c'est 13 jours après.
Après.
Oui, c'est le 23. En fait, le 23 février, c'est 8 mars.
8 mars.
Voilà. Oui, voilà. C'est le jour des. Oui. C'est la Journée internationale des femmes, et donc c'est la première manifestation des ouvrières.
Donc
voilà.
Février, c'est dans le calendrier julien, donc en l'occurrence. Et c'est cette révolution avec des ouvriers en grève, avec ces ruptures de stock, en l'occurrence, Nicolas Vert, qui sont très importantes, et qui laissent entendre là aussi qu'il y a peut-être trahison, puisqu'effectivement, la nourriture n'arrive plus là où elle devrait arriver.
Oui, alors que les raisons sont relativement simple, puisqu'il y a véritablement un grand problème de pièces détachées pour les locomotives, les transports, parce qu'il ne faut jamais oublier à quel point toute cette industrie ferroviaire était dépendante de l'Allemagne. Et donc, comme il y a un blocus, les pièces n'arrivent pas. Bon, enfin, le réseau ferroviaire est engorgé. Enfin, c'est pas depuis ce moment-là, mais on a toute une conjonction entre un hiver extraordinairement rigoureux, le fait que les circuits d'échange ville-campagne sont cassés, que les paysans ne vendent plus pour ravitailler les villes.
Mais pour se ravitailler eux-mêmes, d'une certaine façon.
Oui, eux n'ont sans doute jamais aussi bien mangé que pendant cette période de guerre. Voilà, mais enfin, bon, il y a toute une conjonction de facteurs différents qui expliquent une crise majeure de l'approvisionnement en particulier de Petrograd et quelques autres villes.
Oui, Nicolas Vert, il y a aussi un élément très à la fois réjouissant et révélateur peut-être de tous les témoins qui ont raconté leur année révolutionnaire. Après février, cette séquence du mois de mars finalement 1917 que vous décriviez, Alexandre Zumpf, où ces gens racontent le plaisir de marcher dans la rue, de chanter dans la rue, le plaisir d'un espace public trouvé, peut-être plus que retrouvé, d'un espace public qu'ils ne soupçonnaient pas.
Oui, et c'est vraiment la libération de la parole. C'est le meeting-govagne, c'est le meeting permanent. Enfin, il y a quelque chose de mai 68. Voilà.
Où on décrit des gens qui prennent des chaises et qui se mettent debout sur ces chaises pour parler.
Absolument, qui parlent des domestiques qui défilent en demandant qu'on les respecte, que leur patron les respecte, on n'est pas des serfs. Enfin bon, les garçons de café qui disent on ne veut plus de pourboire parce que nous sommes des gens qui...
On ne nous fait pas la charité.
Voilà, on a droit à notre dignité. Et c'est un moment extraordinaire, évidemment, de libération de la parole. Encore une fois, cette historiographie est loin d'être nouvelle. Encore une fois, Marc Ferraud en avait parlé il y a 50 ans, et depuis, d'autres...
Il ne s'est pas passé grand-chose depuis l'ouvrage de Marc Ferraud que vous citez tous les deux depuis le début de cette émission du milieu des années 60.
Si, bien sûr, il s'est passé des choses, mais au fond, il ne faut pas imaginer qu'au fond, il y a une très longue historiographie déjà derrière, et aujourd'hui, ce qui me frappe, à vrai dire, mais je ne suis pas le seul à être frappé, c'est peut-être qu'il y ait aussi peu d'historiens russes qui se saisissent de ce sujet. Ils sont beaucoup plus saisis du problème de la question du stalinisme.
Voilà. De la guerre.
Mais Alexandre Zumpf.
Oui, il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment l'histoire de ces partis dont on parle, l'histoire des Mensheviks qui a été faite au moins depuis les années 80, l'histoire des socialistes révolutionnaires moins, il n'y a pas de biographie de Tchernov, de Tseretelli, de grandes figures quand même.
Il y a de quoi faire,
mais ce qui est aujourd'hui en train, c'est une histoire d'abord nationale, on n'a pas du tout parlé des nationalités, c'est évidemment très important, qui sont aussi entre fidélité à l'Empire et puis voie vers l'autonomie ou l'indépendance.
On en parlera mercredi, justement.
Voilà. Et puis une histoire régionale aussi, une histoire régionale qui a été lancée notamment donc par Igor Narski il y a déjà plus de 15 ans dans l'Oural. Qu'est-ce que c'est que la révolution et la guerre civile? Je pense aussi que ce qui ressort très bien du que sais-je de Nicolas, c'est le fait qu'aujourd'hui on inclut cette histoire déjà de deux révolutions en une année, qui n'est pas seulement dans la capitale mais aussi dans un peu tous les territoires, au front, à l'arrière. On l'inclut dans un plus grand spectre d'événements qui va donc de 1914 à 1921, puisque la suite en quelque sorte logique de cette révolution, c'est la guerre civile.
Oui, Nicolas Vert, il y a aussi quelque chose de très intéressant, pourrait-on dire, mais qui a déjà été sûrement décrit, mais c'est cette prolifération d'initiatives. Ce sont ces initiatives contradictoires, ces comités d'usine et ces soviets qui ne sont pas, qui ne marchent pas, si je puis dire, au même pas, ces gouvernements qui ne sont pas suivis par certains de ceux qui devraient les suivre. Ouais. Et au bout du compte, par ce bouillonnement, pourrait-on dire, très contradictoire, qui nécessite presque une approche très fine de ces questions-là. Dans le numéro de l'Histoire qui vient de paraître, auquel vous avez contribué aussi, on voit bien les articles qui nous montrent comment les soviets évoluent quasiment heure par heure ou jour par jour, comme pouvait évoluer la constituante pendant la Révolution française, par exemple.
Oui, absolument. Ça, c'est évidemment une des directions à prendre davantage encore, c'est-à-dire une histoire locale, une histoire décentralisée, parce qu'au fond, dans cet immense pays, évidemment que tout n'était pas centralisé, surtout pas de vertical du pouvoir comme veut le faire aujourd'hui Poutine. C'était le contraire. Et c'est un foisonnement extraordinaire de comités. Et au fond, même cette histoire de l'armée que Alexandre a en partie faite dans son livre sur la guerre oubliée montre au fond, il faut prendre vraiment souvent au niveau du comité pour voir, la cavalerie et l'infanterie ne se radicalisent pas à la même vitesse. Dans tel ou tel coin, pour des raisons particulières, on se radicalise plus ou moins. Enfin, donc c'est une histoire où les initiatives décentralisées sont absolument fondamentales.
Anaïs Kien.
Oui, puis il y a cette intensité, cette densité du moment révolutionnaire qui est toujours difficile à raconter. Il y a peut-être un modèle à trouver chez Orlando Finges, dont vous parliez tout à l'heure, Nicolas Vert, dans sa manière de changer de focale au cours de la narration, qui permet à la fois d'avoir une vision d'ensemble et puis de s'arrêter sur de la micro-histoire régulièrement.
Ça, lorsqu'on a 900 pages, c'est très bien.
On sent la frustration du que sais-je.
Le que sais-je dans Fix 128.
Mais c'est une bonne approche. Et puis surtout, ne jamais oublier que 17 s'inscrit dans ce grand moment, cette guerre de 8 ans, ce grand moment de trouble qui commence en 14 et qui se termine quelque part vers 22.
Alexandre Zumpf.
Oui, en effet, Faiges a ce talent qui est celui du conteur, et c'est en cela qu'il est assez appréciable. Et c'est un peu une autre école, une école anglo-saxonne. Alors évidemment, après, on peut être frustré de tel ou tel détail qui ne correspondrait pas, mais le récit y est. C'est plus l'interprétation qui, nous semble-t-il, n'est pas toujours cohérente avec ce qu'on peut lire dans les sources. Il y a beaucoup d'autres sources aussi à convoquer. On a les sources visuelles sont encore assez peu.
Et
assez
vous y travaillez, vous, par exemple?
Moi, j'y travaille. Je suis on s'était déjà vu par rapport à des histoires de cinéma soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, et effectivement, on y travaille aussi dans le cadre d'une exposition qui aura lieu à la BDIC, qui ouvrira le 18 octobre. Donc, je ne suis pas le commissaire principal, mais moi, je m'occupe de tout ce qui est les films dedans. Et on a deux salles qui sont consacrées, l'une à la province, l'autre à la nationalité, et on se sert des fonds richissimes de la BDIC plus des fonds cinématographiques, des archives de Krasnogorsk à Moscou, où il y a des pépites que même Marc Ferro n'avait pas eu l'occasion de voir et qui sont véritablement révélatrices de toute cet éclatement, ce bouillonnement, et en même temps du fait, il y a deux tendances principales, me semble-t-il. Il y a cette radicalisation locale et au niveau global une polarisation croissante qui est notée par tous les acteurs, qui n'est pas tout à fait la même chose que la radicalisation.
Vous disiez Alexandre, vous disiez Nicolas Verte, que effectivement cette question n'était pas traitée par les historiens soviétiques, les historiens post-soviétiques, les historiens russes aujourd'hui. Ces questions étaient un peu négligées de la révolution russe. Vous avez une explication qui viendrait corroborer cette impression, pourrait-on dire?
Bon, peut-être que j'ai été un petit peu trop abrupt là-dessus. Je reconnais, mais en général, ce qui est une question intéressante, peut-être vous l'évoquerez cette semaine, c'est au fond
dans notre débat du jeudi, absolument.
Ah oui, sur l'historiographie, et puis surtout sur comment on va célébrer le centenaire de 17 dans la Russie d'aujourd'hui, en quoi c'est un épisode qui n'est... est complexe pour le pouvoir aujourd'hui à gérer, parce que au fond la révolution c'est tout le contraire de du roman national que essaye de montrer Poutine aujourd'hui, où il faut une adéquation entre non pas le parti et le peuple comme on disait avant, mais entre l'État, le pouvoir et le peuple. La révolution c'est tout le contraire.
Alors donc on continuera demain avec vous Anaïs Quien cette série, donc avec en particulier des archives que vous avez retrouvées dans les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel que vous avez monté en documentaire avec Séverine Cassard.
Voilà, une sélection dans ces archives parce qu'elles sont très très vastes et très très riches. Donc j'ai choisi de vous faire entendre et de mettre en récit et en écho les récits de plusieurs étudiants. Enfin, parmi ces étudiants, il y en a quelques-uns qu'on connaît bien comme Elsa Triolet, une langue française absolument incroyable. Et donc j'ai choisi de vous mettre dans les oreilles ces récits de jeunes gens, d'adolescents. Il y a un enfant aussi, quelqu'un qui a 10 ans en 1917, qui raconte l'irruption finalement révolutionnaire dans ces classes intermédiaires. Ils sont tous enfants de familles bourgeoises, de professions libérales la plupart du temps, et qui raconte à un moment où dans leur famille, il était question évidemment de renverser éventuellement l'Empire, de changer de régime. Il y avait encore quelques espoirs, mais on n'y croyait plus, ou alors on y croyait, mais en silence. Donc on entendra la surprise, l'heureuse surprise dans un premier temps, et puis aussi après la rencontre avec les réalités d'une révolution et de l'instauration d'un nouveau régime qui parfois fait fuir bien vite l'euphorie des premiers temps.
C'est demain, donc, dans La Fabrique de l'Histoire, le documentaire à partir de ces archives enregistrées en 1966-67 par la Radio Nationale Française. Je vous remercie donc Nicolas Vert. Je rappelle que vous êtes auteur des Révolutions russes dans la collection Que sais-je, et que aussi vous avez publié, et vous en êtes très heureux, les textes de votre père Alexander Vert, donc sur les derniers jours de Paris. Ça parle d'une autre défaite, c'est celle de 1940 en France, et c'est publié chez Slatkin. On y reviendra sûrement dans La Fabrique de l'Histoire un de ces jours. Alexandre Zoom, vous êtes auteur de La Grande Guerre oubliée qui paraît en Tempus en poche chez Perrin, et d'un Rasputin en grand format, donc qui vient de sortir également dans les collections biographies chez Perrin. Puis rappelons le numéro de l'Histoire qui est consacré aux révolutions russes. Si vous voulez en savoir plus sur les livres de nos invités et donc consulter la bibliographie, n'hésitez pas à aller sur la page de La Fabrique de l'Histoire sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire, et puis nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de La Fabrique, c'est Fabrique FC. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Pierre Faucillon était avec nous à la technique, et Séverine Cassard à la réalisation.